Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.
Bien, bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Périgord littéraire. Alors, cette semaine, nous allons reprendre les tribulations de notre ami sur la Vézère, Folle Tribulation, comme je le disais. Et ce livre est de Serge Sanchez et il a publié aux éditions du Ruisseau, collection Pagus, en 2005. Voilà, alors on va reprendre un peu ses aventures. On a vu un peu ce qui se passait avec la Fond Labattue et on va reprendre le cours de cette histoire. Alors, donc, je commence. Il songea que mademoiselle Épigène avait expliqué en classe que dans un lointain passé, le climat avait été tropical dans le Périgord. Il n'y avait aucun mouton, car avec leur laine, ils seraient morts de chaud. On y trouvait en revanche des animaux géants, comme des immeubles, et certainement aussi, puisqu'il fallait bien qu'ils se nourrissent d'immenses bananiers. Encore avant, avait-il poursuivi, l'océan recouvrait le Périgord, qui s'était retiré de Séoul, laissant derrière lui la Vézère. Celle-ci était large et rageuse, aristocratique et belle comme le fleuve Congo ou le Mississippi. Elle avait façonné la vallée, arasé les falaises, dégauché les surplombs, enfanté les galeries et corniches avant de s'amenuiser jusqu'à la dimension qu'on lui connaît aujourd'hui. Le décor était dressé. C'est en ce talent que, grosso modo, sont arrivés les premiers hommes. Alors, durant les années 1910, Jean-François Jouannet, on va s'intéresser à lui au cours de cette émission, collectionnait déjà des pierres qu'il disait avoir taillées par l'homme en des temps très anciens, en le surnommant plus tard le grand-père de la préhistoire. Mais qui était-il? Alors, on va découvrir un peu de son vrai nom. François Béni Vatard de Jouannet, il était né à Rennes le 31 décembre 1765. Son père était imprimeur dans les dépendances du palais du Parlement et on voyait passer chez lui tout ce qu'il y avait de lettré dans la ville, si ce n'est dans toute la Bretagne. Sa mère Marie Le Saunier de Vaux et Lot était fille du grand sénéchal du même nom, ce qui n'était pas un avantage durant les temps troublés qui s'annonçaient. Alors, on a toujours connu à François Jouannet un caractère gai, d'une esquisse politesse, son élève et ami, Jean Fort Lapouillade, décrit ainsi. Jouannet était d'une taille au-dessus de la moyenne, sa mise rappelait celle des premiers jours du consulat. Presque toujours vêtu de bleu, il cachait une partie de son menton sous une large cravate blanche. Sa tête devenue chauve annonçait par son développement une vaste conception, de grands yeux fatigués par les veilles de travail révélaient un homme habitué à l'étude et à la méditation. Ses lèvres minces indiquaient chez lui de la finesse et de la propos. On va continuer un peu de cette description. Après avoir passé une licence en droit, il s'installa à Paris et travailla dans un domaine qui affectionnait l'imprimerie. Durant ses loisirs, il écrivait des bluettes à la mode du temps, très enluminé, très sentimental. Il s'essaya aussi au théâtre. Il avait 24 ans lorsque la Révolution éclata. Il ne fut plus alors possible de publier quoi que ce soit. Ça risquait sa vie. Jouannet se réfugia à Bordeaux chez un parent, François Mazois, le même Mazois qui a laissé son nom dans l'histoire de l'archéologie avec des études sur Pompéi. Bien lui en prit, car son associé de l'imprimerie parisienne fut bientôt arrêté et déporté à Cayenne. Le pauvre. Dans le courant de l'an 11 du calendrier révolutionnaire, on trouve Jouannet à Périgueux, prote chez Dupont père et fils imprimeur de la préfecture. En 1808, il devint professeur au collège de la même ville. Les jours de congé, il traduisait Sénèque et passait des heures parmi les ruines antiques Vézones. Il grattait la terre et ramassait des médailles, des débris de poterie, d'armures, de mosaïques. Il entassait ses trésors dans sa chambre décorée de fleurs, car il n'aimait rien tant que les fleurs, surtout les roses. Mais les roses, c'est vrai que ce sont des jolies fleurs. Alors à partir de ces trouvailles, il rédigeait des communications qu'il envoyait aux sociétés savantes bordelaises. Voici une anecdote rapportée par Lapouillade. En 1814, Jouannet se trouva un jour à la fenêtre, fut distrait de ses méditations par un groupe d'individus qui, les regards dirigés vers les vases antiques placés sur sa bibliothèque, se demandait à haute voix ce qu'étaient bien des pots qu'il apercevait là-haut. « Oui, messieurs, » dit Jouannet, avec une gaieté ordinaire, « il y a là-haut des pots et des cruches en bas. » Voilà qui était bien répondu, ma foi. Alors, Jouannet explorait aussi la campagne alentour à la recherche d'antiquités gallo-romaines. C'est à cette occasion qu'il découvrit des pierres taillées qui excitèrent rapidement son intérêt. Avec une intuition remarquable, il devina qu'elles étaient très anciennes, antérieures à l'époque historique. Pensé d'une mutation administrative, Jouannet vécut ensuite à Sarlat. Sarlat, c'est une jolie ville. Voilà, bon, je ferme la parenthèse. Oui, de subir plusieurs de ses élèves, ce qui montre l'estime qu'il pouvait susciter. Le Sarladais, c'était alors le bout du monde, département de Dordogne, n'a point d'arrondissement plus agreste que celui de Sarlat, écrit Jouannet. Nul autre ne représente plus de contraste. Le sol change d'aspect à chaque pas. Tantôt vous vous croiriez transporté dans un affreux désert, rien ne s'offre à vos regards que des sables arides, des rocs, des bruyères et des tristes genévriers. Tantôt vous vous trouvez entouré de riantes campagnes, de frais ombrages, et tout vous retrace et d'autres images de l'abondance et du bonheur. Ici vous découvrez comme les débris d'un monde retrouvés dans le chaos, des coteaux déchirés, des pics des coteaux décharnés, pardon, des pics déchirés par les orages, des rochers dispersés ou amoncelés au hasard sur lesquels rien ne végète. Jeter sur des rochers, c'est pas facile. Que la mousse et les lichens, là ce sont des forêts dieuses, de chênes toujours verts ou les châtaigniers dont les têtes arrondies, vues de loin dans la belle saison, vous rappellent ces bois d'oranger qui, à notre pays, ombragent les campagnes plus heureuses. Si vous descendez dans le creux des vallons du Sarladais, à peine l'horizon serré s'étend-il à quelques pas de vous. Si vous avez le courage de gravir les coteaux escarpés qui bornent votre vue, souvent vous découvrirez en même temps et les neiges du Cantal et les montagnes azurées du Limousin. C'est vrai qu'il y a, il y a des passages par le Sarlois où on peut découvrir des horizons lointains, si je peux dire. Reprenant la lecture, le savant professeur passait beaucoup de temps dans la nature, le marteau à la main. Comme il s'intéressait à la géologie, on le voyait s'agenouiller sur le sol, briser une pierre, en examiner les éclats, faisait également des croquis, car il avait le goût du dessin. J'ai appris de tout, disait-il, excepté l'équitation. Heureusement que j'avais de bonnes jambes, et qu'il savait s'en servir. Vers 1815-1816, il fouilla les grottes paléolithiques de Comp-Grenal et le Pec de l'Az. Le Pec de l'Az, c'est une grotte qui se trouve aux proximités de Sarlat. Alors, en 1830, Jouannet se vit proposer la conservation de la bibliothèque de la ville de Bordeaux, longeant dans le bâtiment où se trouvait la bibliothèque, les musées et les salles d'académie. Il ne délaissait pas pour autant les études de terrain. En 1834, il explorait le gisement de Bas-de-Goule, membre de nombreuses sociétés érudites, dont celle des antiquaires d'Édimbourg. Ibison en donnait une coquille découverte en Gironde, la Jouannetia, ou Jouannetia, comme on veut. Alors, comme nous l'avons dit, Jouannot écrivait des poésies. Jean-Fort Lapouillade en a répertorié une cinquantaine. Parmi celles-ci, alors, on va en citer quelques titres. L'abeille et le serpent, mes 40 ans, Hyménée ou chant nuptial, un vieux mari à sa femme, il chanta plusieurs fois, les fleurs bien-aimées, le papillon voyageur et un récit déprimant. Pour accomplir son périple, l'insecte se fait une embarcation d'une feuille de rose, mais un coup de vent le fait chavirer, le lépidoptère tombé à l'eau, les ailes humides, périt noyé, un pêcheur le recueille, il le dépose sur le rivage, avant d'écrire pour lui cette épigraphe sur le sable. Beau papillon de nos rivages, vivez aux dieux, marquez un beau jour. Pour nous, hélas, ce sont les voyages, pour vous, les fleurs et les amours. Voilà qui était ce beau quatrain. En résumé, mieux vaut rester chez soi et jouir d'une existence paisible qu'aller risquer sa vie dans des aventures hasardeuses. On devine que cette morale, la mélancolie de Jouannet lui-même, forcé de quitter les siens, vivait de rationner, solitaire, cet imaginatif, aurait pu écrire des romans en 1926. Il avait d'ailleurs fait paraître anonymement un curieux récit de voyage de deux Anglais dans le Périgord, fait en 1825 et traduit sur leur journal manuscrit. On en reparlera peut-être un jour. Les narrateurs et son compagnon, un certain John Hastings, ont délaissé les traditionnels voyages en Italie ou en Orient et au profit de la Dordogne. Au profit de la Dordogne, nous quittons Bordeaux le 15 septembre au point du jour, sans plan de voyage, bien arrêté, écrit Jouannet, mais avec la résolution d'aller visiter l'ancien Périgord. Et nous proposons de le parcourir à pied d'un côté de l'autre, selon que le temps, le hasard, le caprice mais viendrait régler nos marches et nos séjours. Alors, on va continuer un peu cette lecture. Ces visites de ce territoire, alors aussi méconnu que le Vanuatu ou le détroit de Kamtchatka, ce n'est pas pour des trésors préhistoriques, mais pour des vestiges de l'époque gallo-romaine. D'ailleurs, seule l'Antiquité paraissait belle en ce temps-là. Le terme d'un roman apparu en 1818. Il n'était que timidement employé, même si ce changement s'amorçait des constructions du Moyen-Âge, était généralement qualifié de gothique, autrement dit de barbare et raide, et d'arriéré, y compris par Jouannet, qu'on en juge aussi, en introduisant dans nos temples ces monstres dégoûtants, des bêtes hideuses séparées du troc, écrit-il, les Goths voulurent perpétuer le souvenir de leur odieux triomphe et de la terreur qu'ils inspiraient. Leur succès a été compié, comme le rapporte encore Jouannet, grotesque musicien acrobate, animaux merveilleux sculptés sur les façades et les chapiteaux des églises servaient de cible aux enfants. Ainsi, à Bazar, ces garnements s'amusaient-ils à mutiler à coups de pierre les personnages sculptés sous les arcades de l'incomparable cathédrale Saint-Jean-Baptiste. Alors, poursuivons un petit peu, on va se rapprocher au bugle allemand signalé à nos deux Anglais, une inscription gravée dans la pierre, quelque part sur la route de Limeuil. Voilà qui fleure le vestige gallo-romain, après avoir suivi pendant une demi-heure un étroit sentier ouvert sur le roc vif à mi-coteau et à plus de 200 pieds au-dessus de la Vézère, écrit Jouannet, sentier dangereux que les gens du pays appelaient cingle. Et nous arrivâmes au bord d'un ruisseau qui coupe la route. Un amas de pierres sculptées et graviers se trouve là. En effet, après un examen minutieux, Hastig annonce qu'ils sont en présence d'un hôtel roman dédié à Jupiter. C'est alors qu'arrive un jeune homme qui leur explique qu'il en est réellement ce que vous voyez, l'ouvrage d'un fou. Leur dit-il, un fou de ce pays qui depuis s'est suicidé comme l'avait fait son père. Et voulu, avant de se brûler la cervelle, nous laisser un monument à sa façon. J'ignore quelle aventure le malheureux avait eue dans le sombre ravin d'où sort ce ruisseau, mais il conçut l'idée de construire ici un petit pont dont vous voyez les débris. Il lui donna le nom de pont d'amour, avant comme devait suivant lui l'indiquer les initiales P et D gravées sur la pierre et le cartouche sculpté sur une autre pierre. Voilà. Alors, je vais arrêter là pour aujourd'hui cette lecture intéressante et on repartira un peu à la découverte de nos ancêtres et de leur époque, mais ma foi, la semaine prochaine. En attendant, mais je vous souhaite une bonne semaine et avec beaucoup de soleil et un temps pas trop frais. Voilà, au revoir et à bientôt.
C'était Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.